Suite de BFM Story avec maintenant le face à Duhamel. Avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, Monsieur Raffarin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, Alain Duhamel.
Bonsoir.
Dans un entretien au Parisien, le président du Sénat, on peut le dire, critique ouvertement l'actuel chef de l'État, Emmanuel Macron. Il emploie cette expression, Emmanuel Macron ratatine la démocratie. Vous êtes d'accord avec
le président? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec le président Larcher. Je trouve que Emmanuel Macron ne ratatine pas la démocratie, il ratatine son camp, son propre camp, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il ratatine pas la démocratie parce que quand il y a un événement considérable, comme le niveau atteint par le Rassemblement national aux élections européennes, c'est évidemment quelque chose d'historique qui se produit. Il demande au peuple de décider lui-même et apparemment, d'une part, on sait par les sondages que la majorité des Français ont été contents de pouvoir prendre la parole. Et d'autre part, quand on voit l'augmentation des intentions de participation gigantesque, ça prouve qu'ils sont contents de donner leur avis. Même si leur avis ne sera pas forcément idéal.
Mais c'est la démocratie. Ont envie de se prononcer.
Ouais, ils ont envie de donner leur avis. Ils ont envie de décider eux-mêmes. Donc, ce n'est pas du tout contre la démocratie. Mais alors, en revanche, pour son camp, il l'a sacrifié. Il l'a littéralement sacrifié. Et bon, je serais à la place d'un député sortant de son camp, franchement, je ne serais vraiment pas de bonne humeur.
Moi, franchement, j'ai connu le président Larcher capable de formules meilleures. Surtout que dans cette crise, les LR ont une part de responsabilité. Certes, le président de la République est responsable, numéro un. Quand le cheval trébuche, c'est le cavalier qui est responsable. Mais si on n'a pas eu une majorité capable de gouverner, c'est aussi parce que les LR et aussi parce que le Sénat s'est appuyé sur les LR et qu'il n'a pas pu jouer son rôle institutionnel qui était peut-être d'apaiser la situation. Donc certes, c'est le président de la République qui n'a pas réussi, c'est évidemment lui le responsable, mais on ne peut pas dire que LR ait facilité une démocratie de coalition raisonnable et responsable. Ça, je pense que c'est un point très important. Parce que maintenant, il faut regarder l'avenir. Bon, c'est vrai qu'on peut discuter
de ça. Difficile de le voir, l'avenir, pour l'instant.
Oui, mais c'est la chose qu'il faut qui compte. Et c'est le Sénat a un travail à faire sur ce sujet. Parce que on peut toujours critiquer Macron aujourd'hui. Ça, il a utilisé des responsabilités constitutionnelles. Il les a faites. Maintenant, il faut voir, nous, comment on va sortir de cette affaire. Parce que de mon point de vue, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Si on avait écouté, en tout cas consulté, les acteurs ou les spectateurs actifs de la dissolution de 97. On aurait dit, nous, que la gauche est capable de se rassembler dès que ça sent la poudre. On aurait dit.
Mais la politique est un métier.
Mais oui, mais c'est. Et là, parce qu'on sait bien, vous savez, ils ont sorti quand même les 35 heures, ouais. Ils ont sorti les emplois jeunes à l'époque, en rien de temps. Et beaucoup de gens pensaient que jamais la gauche s'entendrait. Et dans le seul raisonnement qui serait acceptable sur cette dissolution, c'est de se dire. La gauche est divisée, ouais. C'est le moment d'aller au système.
C'est
un raisonnement que l'expérience condamne et que n'importe qui a vécu ça dit c'est absurde.
Oui, mais Alain, peut-être qu'il fallait conseiller Emmanuel Macron, mais Gérard Larcher raconte dans cette interview que le président Macron l'a appelé parce que c'est
c'est obligatoire.
C'est obligatoire.
Il aurait même pu le faire venir.
Qu'il voulait dissoudre, mais que la conversation a duré 1 minute 30. Le président du Sénat n'a même pas eu le temps de peut-être lui dire que c'était pas forcément une bonne idée.
Il lui a dit 1 minute 30 en lui disant, il m'a dit j'ai décidé de dissoudre et Gérard Larcher poursuit, j'appelle pas ça une consultation, j'appelle ça une information.
Oui, mais enfin cela dit, quand on dit consultation, ça veut dire qu'on leur demande leur avis, mais le président n'est en rien obligé de le suivre.
Il n'a même pas demandé l'avis, visiblement.
Il lui a demandé l'avis 45 secondes, probablement. Bon, mais
c'est sûr,
peut-être que Gérard Larcher lui aurait convaincu pas le faire.
En revanche, dans la. Oh, bon,
ça m'étonnerait. En tout cas, on a donné bons arguments.
Ça m'étonnerait d'autant plus que Gérard Larcher avait donné à plusieurs reprises des signes positifs qui n'ont jamais été suivis d'effets pendant 2 ans. Hein. On n'a pas oublié ça. Mais je pense aussi que dans la vindicte de Gérard Larcher, il y a le fait que si Emmanuel Macron a ratatiné sa propre majorité, il a ratatiné au passage le Parti Républicain de Gérard Larcher.
Parce qu'il a contribué à être ratatiné.
Absolument. Bon. Mais dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui.
Mais aujourd'hui. Pardon, mais on citait le nom. On reste 2 minutes encore sur Gérard Larcher, mais on citait le nom de Gérard Larcher à Matignon. Avant tout ça, on dira, mais Gérard Larcher pourrait être
président du Sénat.
Non, mais pour aller à Matignon, si les Républicains et la majorité présidentielle se mettaient d'accord.
Mais franchement, ça aurait été une solution. Et c'était une solution de coalition. Elle a échoué.
Mais est-ce que Emmanuel Macron voulait vraiment cette coalition?
Pas suffisamment. Parce que Larcher, quand on a laissé dériver le groupe LR de l'Assemblée nationale, de toute façon, si Larcher venait, il n'entraînait pas derrière lui le groupe LR. Donc la coalition ne fonctionnait pas. C'est tout au début qu'il fallait faire en sorte que le groupe LR puisse être compatible. Mais au fond, très franchement,
bon, maintenant, c'est fini, tout ça
ouais. n'est pas parce que nous sommes dans une situation extrêmement grave.
Vous êtes très inquiet ?
Ah, moi, je suis très inquiet. Je pense que s'il n'y a pas un sursaut démocratique, un sursaut politique, les deux dimanches qui arrivent, on est dans une situation de désordre profond. Je vois deux orages majeurs. Le premier, ça va être la violence, la brutalité. Car deux blocs extrêmes qui vont s'opposer, forcément, c'est très difficile de gouverner. Surtout quand on n'a pas forcément tout à fait les expériences nécessaires. Et donc, quand vous avez un groupe et la gauche au pouvoir, elle se serait divisée. Une fois qu'elle va être dans l'opposition, elle va rester rassemblée.
Oui. Donc, ça va être très dur de
gouverner. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir une crise économique et qu'on va avoir derrière la crise politique, derrière le désordre politique, on va avoir un désordre économique qui va affaiblir les classes moyennes et qui va affaiblir la France.
Oui, ce qu'a dit au télégramme de Brest Marine Le Pen, c'est aussi une indication de ce qui va se passer et qui effectivement est sans précédent. Parce que quand elle présente les prérogatives du président de la République en matière de défense nationale comme purement honorifique, comme une sorte de gadget protocolaire, alors d'abord on retrouve la vraie Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a joué la chatte-mite pendant 2 ans en étant douce, apaisante, modérée, compréhensive.
Et silencieuse.
Et voilà, et que là, hop, elle ressurgit telle qu'en elle-même, c'est-à-dire, quand on lit l'interview, arrogante et autoritaire. Et d'ailleurs,
compétente.
Et surtout, disant délibérément quelque chose de faux. Alors, quelque chose de faux, parce que dire que c'est un pouvoir honorifique, celui de chef des armées, c'est le contraire de la...
Elle fait ça pour provoquer...
Non, mais attends, je peux m'expliquer. Donc, c'est le contraire de la réalité, parce que le président de la République, pour ne prendre qu'un seul exemple, je pourrais vous en citer 5, hein, c'est lui qui détient le feu nucléaire. Alors, si vous appelez ça honorifique, franchement, bon... Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Elle dit pas du tout ça parce qu'elle le croit. Elle dit tout ça pour annoncer une cohabitation de fer, ce qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. C'est-à-dire une cohabitation où elle fera tout ce qu'elle peut pour aboutir à un empêchement du président de la République.
Pour le pousser à démission?
Oui, absolument.
D'accord.
Et si Bardella est... D'abord, s'il gagne, c'est pas encore gagné. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, on en est à... quand même 17 points d'augmentation de la participation. Donc,
oui, enfin,
on
peut pas dire...
On va pas voter avant les Français.
Bien sûr.
Donc, prenons quand même des précautions.
C'est l'hypothèse la plus
mais
probable.
Je suis d'accord. Si c'est effectivement Bardella qui est le Premier ministre, d'abord derrière lui, c'est Marine Le Pen qui tirera toutes les ficelles, hein, il sera l'exécutant. Et d'autre part, il y aura un objectif. Et cet objectif, ça n'est pas de gouverner ensemble... ce qui est le propre d'une cohabitation, gouverner ensemble, ça s'est fait 3 fois, c'est pousser à la démission, c'est aboutir à l'empêchement.
Moi, je pense que ce sera de toute façon extrêmement difficile pour le Rassemblement national de gouverner. D'abord parce que leur majorité sera très étroite, et d'autre part parce qu'ils auront une opposition qui sera très virulente et qui sera très nombreuse et relativement organisée. Donc pour moi, le désordre, en dehors du sursaut, il n'y a pas d'autre issue que le désordre. Y compris avec une majorité absolue, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, il y aura des graves problèmes à l'Assemblée nationale, notamment à l'occasion du budget. Donc je crois qu'on est parti dans une période de désordre et que ça va durer au moins un an, parce qu'on ne peut pas dissoudre autrement. Donc pendant au moins un an, on va connaître crise après crise. Ce qui va entraîner...
Ça veut nous rappeler la 4ème République, ceux qui l'ont connu.
Sauf que là, on n'a pas de moyens budgétaires. Donc, et on a de l'endettement, donc on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter. Et troisièmement, on va se trouver dans une situation forcément extraordinairement difficile où on aura un bloc central qui sera à peu près écrasé et deux blocs qui sont extrémistes qui vont générer une forme de brutalité. Vous aurez des manifestations, vous aurez des actions.
Même si Jordan Bardella a quand même lissé son programme et tente au contraire
mais ça,
de
vous avez bien vu quand même que
dans ses propositions économiques.
Vous avez vu qu'il y a eu une manifestation le samedi qui a suivi les élections.
simplement parce qu'ils avaient gagné les élections avec 32%.
Il y a 2 millions de personnes dans
la
rue.
Non, mais enfin,
c'était pas 2002. Hein.
Quand vous faites une manifestation contre un vainqueur des élections, ça veut dire quand même que vous êtes prêt à beaucoup de choses. Quand vous êtes radical au point de dire que vous êtes prêt à flirter avec l'antisémitisme pour gagner les voix islamiques, vous êtes quand même prêt à vous comporter de manière extrêmement brutale.
Non, mais ça, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça va inévitablement déboucher non pas sur une crise, mais sur des crises. Il y aura une crise économique, bon, ça c'est à peu près inévitable, puisque leur programme a été édulcoré, ils veulent le faire en deux temps, mais il reste ce qu'il est. Je veux dire, il faudra sur la TVA qu'ils commencent par prendre des décisions parce qu'ils peuvent pas faire autrement. C'est absurde, mais ils le feront quand même. Les Français n'en profiteront même pas de ces réductions-là.
Bon,
si, c'est arithmétique. L'État perdra des rentrées budgétaires et ça ne fera pas baisser le prix réel. Bon, vous verrez. Sur le plan européen, ça va être dès le départ, et d'ailleurs ils le disent déjà, ça va être dès le départ l'affrontement. À partir du moment où on arrive en disant déjà, ah ben on baisse de 2 milliards la contribution nationale. Bon, je veux dire, ça sera l'affrontement. Donc il y aura affrontement économique, il y aura affrontement européen, il y aura affrontement avec les marchés, ce qui sera peut-être le plus redoutable de tous, parce que là, on n'y peut rien. Les conséquences pour les Français sont des conséquences terribles. Ça veut dire que les taux d'intérêt des Français vont monter. Et c'est certainement pas ce qui est espéré maintenant. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Pierre Raffarin. Ce que je redoute le plus, c'est aussi des affrontements dans la rue. C'est-à-dire des manifestations, des contre-manifestations. Ils ont toujours dit que l'autorité, l'ordre, augmentaient les pouvoirs de la police. Si vous vous trouvez devant des manifestations avec les Black Blocs, etc., et la volonté de taper ferme, c'est comme ça qu'on arrive à des drames.
Oui, mais c'est peut-être aussi ce pourquoi votent les Français.
Oui, je pense que
ils veulent un rétablissement de l'ordre, de l'autorité, un contrôle des frontières.
C'est ce que souhaitent les Français, je suis d'accord.
Voilà.
Mais ça n'est pas forcément ce qui s'annonce du tout.
Certes, mais c'est ce pourquoi le vote du
Ils ont le droit de voter comme ça.
C'est tout à fait logique. Mais croyez-vous que M. Macron voulait le désordre ou que ses prédécesseurs voulaient le désordre?
Macron avait promis de faire baisser l'Assemblée nationale. Oui, donc là, il y a un échec.
Il l'avait dit
le soir de son élection.
Il y a un certain nombre d'échecs qui sont évidents. Il y a un certain nombre de réussites qui sont évidentes. Le bilan de Macron n'est pas complètement négatif. Il y a des choses, que vous regardez la politique de l'emploi, regardez la capacité aujourd'hui de technologie, les investissements étrangers, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe. Il y a un certain nombre de choses qui sont très positives. Mais il est clair aujourd'hui que les Français veulent un certain nombre de choses qu'on leur promet et qu'on ne peut pas facilement tenir. On l'a bien vu. Hélas, si c'était si facile que ça de raccompagner des immigrés dans leur propre pays, quand ce propre pays ne veut pas les accepter, c'est quand même très compliqué. On va bien voir comment ils vont faire face à ces réalités. Vous pouvez dire, il y a qu'à Faucon, il y a un moment où vous êtes face à des réalités. Ce que je vous dis, moi, je prends le pari, je reviens quand vous voulez, pour prendre, constater tout ça, ça va être très compliqué. Parce que déjà, quand vous avez beaucoup d'expérience, quand vous avez les 60 personnes, il faut 60 personnes pour bien gérer une majorité à l'Assemblée nationale au total. Quand vous regardez les postes dont vous avez besoin. Donc, quand vous ne les avez pas dès le départ, quand vous n'avez pas d'expérience de tout ça, ce sont des choses qui sont compliquées. Et vous ne sortez pas le matin comme ça, surtout quand vous avez des Jeux Olympiques qui sont là, qui fait que votre action efficace, elle arrivera en novembre, décembre. Donc, on est dans des situations...
D'un autre côté, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, si effectivement ils l'emportent et si donc Bardella constitue son gouvernement, ils récolteront les fruits de ce qui a été semé avant. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un programme de préparation et qui a été fait. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont occupés depuis des années et ce seront eux qui accueilleront 150 ou 200 chefs d'État ou de gouvernement qui seront les autres.
Mais ceux qui feront ça pourront pas faire autre chose.
Ce que je veux dire, c'est que ça... Au départ, ça adoucira leur image. Ça leur permettra probablement d'avoir un trimestre de répit pendant lequel j'imagine qu'ils vont essayer de s'organiser pour la suite.
Mais vous croyez vraiment les difficultés, parce que vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron, parce que là, il a encore quand même 2 ans et demi de pouvoir. Hein, on n'est pas en fin de bon. Il a moitié de son deuxième mandat.
10 ans en ce moment, plutôt 2 ans et demi de mandat.
Bon, 2 ans
de pouvoir.
Enfin, en tout cas, de mandat. Pardon. Mais est-ce que vous pensez que ça peut durer 2 ans et demi cette cohabitation rugueuse entre connaissant le caractère d'Emmanuel Macron, qui n'est quand même pas partageur dans le pouvoir, on l'a vu avec ses propres
et celui de Marine Le Pen.
Donc on a quand même deux personnalités qui ne sont pas toujours très conciliantes. Et là, vous pensez que ça va durer deux ans et demi.
Moi, je ne pense pas ça, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais persuadé que Marine Le Pen voulait mettre en place une cohabitation. Attendez. Oui. Une cohabitation de fer, donc conflictuelle permanente, pour pousser Emmanuel Macron à la démission. Donc, je ne pense pas du tout que c'est quelque chose qui va durer deux ans et demi.
Donc, lui pourrait démissionner.
Moi, ça, je crois qu'on peut pas employer ce mot. Ça, c'est un point très important que vous soulevez là. Ah. Parce que ça, c'est le point de la Constitution. De mon point de vue, c'est le point de la République. C'est là où on va voir ceux qui respectent la Constitution et la République. C'est-à-dire le président est élu pour 3 ans encore à peu près. Donc, le président est élu. Tous ceux qui demanderont sa démission vont entrer dans des logiques qui sont des logiques contre la Constitution, contre la colonne vertébrale de la République. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être très intéressant. Et ce en quoi le Rassemblement national est extrémiste, c'est que sa logique, c'est de faire partir le président.
Oui, absolument.
Un républicain, il demande l'application de la Constitution.
Oui, mais lui-même, est-ce qu'il pourra tenir? Est-ce qu'il aura envie de cohabiter pendant 2 ans, 3 ans
avec Jordan Bardella? C'est à lui de décider, mais c'est pas à nous.
Sachant qu'il ne peut pas se représenter derrière.
Contrairement
aux autres cohabitations.
Absolument, non, mais ça c'est vrai. Mais il y a un facteur dont on n'a pas encore parlé, mais qui va forcément jouer, c'est que puisque ça va être très conflictuel, puisque, comme on le disait, il va y avoir toute une série de problèmes qui vont inévitablement surgir dans beaucoup de domaines, l'image de Macron, ça, comme ça s'était passé avec Chirac, comme ça s'était passé
Chirac
avec Mitterrand,
après la dissolution.
Son image personnelle va probablement changer, là aussi. Oui. Autrement dit, il aura plus une tête de défenseur qu'une tête de destructeur.
Oui, mais, comme il ne se représente pas après, à quoi ça sert?
Ben, ça sert à
Jacques Chirac, ça lui a permis de se représenter, de regagner.
Jacques Chirac, on a même parlé à un moment d'un troisième mandat. Bon, alors, tout ça n'a pas d'intérêt. Mais il va avoir une image qui va être une image, je crois, très différente de celle qu'elle était. Et d'une certaine manière, je parie que, est-ce que ça sera dans 6 mois ou dans 1 an, il aura le beau rôle, pas son beau rôle habituel de celui qui prend les initiatives,
mais le rôle
du défenseur, de l'apaiseur au milieu de bagarres qu'il y aura dans tous les domaines.
Oui, mais
je suis pas en train de vous dire que du coup, ça le renforce lui, mais en revanche, ça affaiblit Marine Le Pen. Oui.
Moi, je pense que de toute façon, dans un premier temps, il va être responsable du désordre. Comme moi, je pense que s'il n'y a pas un sursaut les 2 dimanches qui viennent, on est installé dans le désordre durablement. Et donc, il y a un moment où, en effet, il apparaîtra comme une forme de stabilité.
L'homme du désordre redeviendra l'homme de l'ordre.
Parce que, pas forcément de l'ordre, mais en tout cas, d'une relative apaisement. La question, c'est comment on évite le désordre.
Mais d'accord, il y a une chose, mais on a un président qui a dissous après un scrutin dans lequel les Français lui ont déjà mis une baffe, les Européennes. Là, on va voir ce qui se passe le 7 juillet. Donc, est-ce qu'il apparaîtra comme l'homme qui apaise?
Non, attendez.
Ou est-ce qu'il faudra aussi qu'il dise « je comprends le message des Français
mais
qui m'envoie un gouvernement, une cohabitation, on verra laquelle ». Et donc il ne faudra pas qu'il soit le président qui empêche, vous voyez, gouvernement de gouverner.
Mais d'abord, ce n'est pas du tout ça.
Oui,
parce qu'il va commencer par reconnaître qu'il y a un échec. Un nouvel échec électoral, il va dire qu'il est respectueux de la Constitution, etc. Et que si c'est le Rassemblement national, naturellement, il appelle le Premier ministre, il ne discutera pas
d'accord,
de tout ça,
bien
et qu'il
sûr.
Composera le gouvernement. Peut-être qu'il faudra qu'il discute sur qui aura le portefeuille des affaires étrangères et qui aura le portefeuille
de la défense.
De la défense.
Oui.
Mais bon, pour le reste, et il jouera le jeu, là. Mais immédiatement après, il y aura le début d'une bagarre inévitable.
Il sera à poil à l'Assemblée nationale.
Vous oubliez aussi que
il ne sera pas
au cœur du débat. L'opposition sera contre le gouvernement. Et c'est la gauche qui va mener le débat. Donc lui, dans un temps,
il va devenir l'allié de la gauche.
Il jouera l'arbitre.
Il peut pas être candidat. Il sera le responsable de la dissolution. Il ne peut pas être le candidat. Donc il ne sera pas l'enjeu.
Mais il jouera l'arbitre.
Il va essayer. Il serait l'arbitre s'il réussit.
Mais le roi sera nu.
Il
sera nu face aux Français, nu face au Parlement.
On est dans une situation où il n'y a pas de roi pour le moment. Le président va être... Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il a fait la dissolution, il a été jugé responsable. Il a mis 3 ans à se débarrasser de ce concert. J'ai vécu ça de très près.
Oui.
Et donc, ça veut dire que ça va être long. mais pendant un certain temps, contrairement parce qu'il était président et il était le candidat potentiel.
Oui, mais il se représente.
Là, vous allez avoir des candidats qui vont apparaître.
Bah oui,
donc le match, il sera.
Mais vous allez y arriver, alors vous allez voir.
Si vous me permettez, oui.
C'est le dernier mot.
Parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais il y aura des oppositions syndicales, il y aura des oppositions des marchés, il y aura des oppositions à l'Assemblée, mais il y aura aussi les candidatures de ceux qui, dans les rangs sortis de chez Macron,
vont se manifester de plus en plus.
Feront campagne.
Ça commence contre lui.
Et non, là, ça sera plus contre lui, ça sera contre Le Pen.
Oui, contre Le Pen, bien sûr.
Parce que lui, il ne se représente pas.
Ça sera contre Le Pen et contre entre eux.
Oui, mais ça sera tout en critiquant.
Non, ça ne sera plus la question.
Il va sortir.
Non, mais rendez-vous compte de la nouveauté qui constituera le Rassemblement National au pouvoir, si c'est le cas.
Si c'est ce que choisit, c'est pour ça qu'on en parle.
C'est pour ça que je dis, si c'est le cas.
Eh bien, on va.
Et dans ces cas-là, c'est évident qu'on va être dans une situation politique complètement différente et que dans cette situation, le rôle d'Emmanuel Macron sera d'une toute autre nature, même à l'opposé de son rôle actuel, et qu'en revanche, le nouveau gouvernement, si nouveau gouvernement il y a, aura contre lui, je répète, les syndicats, les marchés, les oppositions politiques, des formes de désordre que j'espère...
La préparation des élections municipales,
etc.
Ça va être quelque chose.
Et des candidats qui seront les vrais adversaires de Marine Le Pen.
Merci, ben justement.
Est encore temps d'éviter le désordre.
C'est terminé.
Les Français doivent se dire encore, ils ont encore le temps d'éviter le désordre qui paraît inéluctable s'il n'y a pas de sursaut.
Ben moi, j'y crois pas.